un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre quand les choses arrivent.
Le 11 septembre 2004, Bertrand Plumet, 65 ans, entre au bloc opératoire dans une clinique de l'Isère pour recevoir une prothèse à la jambe gauche et remédier enfin à des années d'arthrose. L'opération est assez banale, elle se pratique couramment, mais lorsqu'il se réveille de son anesthésie, Bertrand Plumet se souvient très bien du visage blême du chirurgien penché vers lui, comme il le raconte aux Parisiens. Il était là, face à moi, et il m'a dit « Monsieur, je vous annonce que je vous ai opéré de la hanche droite au lieu de la gauche ». Le chirurgien lui propose alors de rectifier son erreur dès le lendemain et de le réopérer. Bertrand Plumet accepte et le regrette encore. Car pour opérer la jambe gauche, le médecin doit positionner son patient sur le côté droit où se trouve une fraîche cicatrice. À son deuxième réveil d'opération, cette fois, le malade souffre horriblement. Sa jambe droite est violette, de la taille d'un tronc d'arbre, écrit le même quotidien. Une hémorragie à l'évidence. Bertrand Plumet ne retrouvera jamais le plein usage de sa jambe et 3 ans plus tard, il marche encore avec une attelle, mais il a décidé de parler et d'obtenir justice. Dans le jargon du métier, qui pratique un bel euphémisme, c'est ce qu'on appelle un événement indésirable grave lié aux soins, pour ne pas dire, vous l'aurez compris, une erreur médicale. Selon une étude réalisée il y a une dizaine d'années à l'initiative de la DRES, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, entre 250 et 450 000 événements indésirables graves ont été recensés pour cette seule année, je crois que c'était en 2009. Le chiffre déjà ancien peut sembler énorme, mais même dans la version la plus large, cela ne représenterait, si je peux dire, qu'un pour cent des actes médicaux qu'on chiffre à 450 millions par an. Des erreurs de dossiers administratifs, de prescriptions, de gestes, de doses, de diagnostics qui sont souvent minimes, sans conséquences graves ou vite rattrapées. Mais parfois, le patient est mis en danger, hérite d'une affection, d'un handicap, ou pire, il laisse la vie. Entre soignants, ce sujet est rarement évoqué, il reste un tabou bien ancré, comme en témoigne le peu de cas signalés sur le portail gouvernemental prévu à cet effet depuis mars 2017. Tout de suite dans les pieds sur terre, 3 soignants ont pourtant eu le courage de raconter l'erreur qu'ils ont faite et ce qui s'en est suivi. Et ces histoires sont racontées par Karine Lelouette.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai commencé tout simplement à vouloir être infirmière pour soigner les maux de ventre de mes frères et sœurs, je pense. Tout simplement parce que je trouvais que soigner les autres me donnait une importance. Et je pense que je voulais améliorer le monde. À petite échelle, voilà, je trouvais que je pouvais avoir ma petite importance et même mon importance passait par soigner l'autre. Et venant d'un milieu où on n'avait pas beaucoup d'argent, je me suis dit que les études qui étaient les plus accessibles, les plus courtes et les moins chères étaient sûrement être infirmière et de bosser dans le milieu où je me sens mieux, je me sens chez moi à l'hôpital. J'étais dans le même établissement depuis le début de ma carrière, même en tant qu'aide-soignant, donc je devais y être depuis plus de 7 ans. Ce jour-là, j'étais dans une salle de réveil dédiée à l'endoscopie. On manquait de personnel à l'accueil de ce petit service où justement on accueillait en ambulatoire ces patients. Et de ce fait, j'avais fait un peu avec de polyvalence, comme je sais le faire, et je suis passée de l'accueil à la salle de réveil, de l'accueil à la salle de réveil, jusqu'à que mes premiers patients en salle de réveil arrivent, et donc que je reste en salle de réveil. Mais ayant fait ces allers-retours, et puis étant dans une salle de réveil plus, on va dire, soft que la salle de réveil plus lourde qu'on peut trouver au bloc, j'ai pas préparé et on n'avait pas l'habitude de préparer les médicaments que l'on prépare tous les matins au bloc central. C'est trois médicaments au grand maximum qu'on prépare au bloc central, l'atropine, l'éphédrine et la morphine. Et le premier patient est arrivé et j'étais assez tranquille. La spécificité de ce jour-là, c'est que j'étais à un stade jour de mon anniversaire. Donc j'étais un petit peu un changement dans ma vie perso qui coïncidait avec ma date d'anniversaire. Je pense que ma manière de réfléchir était peu concentrée sur exactement ce que je faisais. Et ce patient présente à son réveil une simple bradycardie. Avec une bradycardie, ça veut dire que son cœur battait un peu moins vite que la normale. Donc je suis partie interpeller l'anesthésiste qui m'a demandé à l'oral de lui faire de l'atropine. Il me dit, tu fais de l'atropine comme d'hab. Et je lui dis, pas de problème. Et en fait, je rentre dans la salle de réveil. Là, j'explique au patient, vous avez le cœur qui bat pas très rapidement. Je vais vous mettre un petit produit, un médicament qui va permettre de le ramener à la vitesse normale. Et il va falloir qu'on se regarde ensemble si ça s'améliore. Et en fait, au moment où je m'ai préparé cette atropine, là, je prends l'ampoule qui est dans les A et dans le petit bac d'atropine, je m'en rappelle très bien. Et là, cette ampoule qui ressemble exactement à la même ampoule que l'atropine s'avère être de l'adrénaline, mais c'est absolument pas ce que je vois à ce moment-là. C'est écrit en rouge sur une petite ampoule transparente, mais c'est juste pas du tout le même produit. On est sur deux choses complètement différentes. Et donc, je prépare la seringue d'adrénaline. En fait, c'était donc pour moi de l'atropine. Et je vais pour injecter ce produit. Et j'ai même pas injecté un tout petit peu. Et puis, c'est là le patient qui a exprimé en se disant qu'il se sentait pas bien. Et moi-même, je me rappelle, je pense ne m'être pas senti bien du tout comme lui. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas normal, c'est pas une réaction que j'ai d'habitude. Et je suis retournée en catastrophe chercher l'ampoule pour vérifier ce que j'avais préparé. Et là, c'est là où je me rends compte que c'est l'adrénaline. Donc, j'ai foncé voir l'anesthésiste en lui disant, il y a un problème, je me suis plantée. Donc, il me dit, appelle le cardiologue, j'arrive. Et je l'ai vu en 5 minutes débarquer, même pas 3 minutes. On a fait le point, on s'est briefé, on a dit, on va vite en salle de coronarographie pour les patients qui font des infarctus. Et donc, ce patient-là présentait une souffrance cardiaque et présentait un pré-infarctus sur des artères qui nourrissent le cœur. Et dans la journée, il est monté pour surveillance aux soins intensifs. Il est resté 2 jours et j'ai pu passer, je pense, les 2 jours les plus longs de ma vie à aller voir ce patient. Pour moi, c'était la prunelle de mes yeux. Je voulais savoir comment il allait, si tout allait bien. Je n'ai jamais pris autant soin de quelqu'un pendant toute son hospitalisation. Alors, j'ai fait un autre métier à côté, j'étais en salle de réveil. Le produit que j'ai injecté lui a fait faire un semblant de test d'effort. On lui a fait faire comme si de l'adrénaline, ça fait un grand moment d'effort. Dans l'analyse qui a été faite sur la table, après l'intervention, on a voulu regarder pourquoi la souffrance était cardiaque. On a pu découvrir que ses artères étaient bouchées par des cholestérols, enfin plein de raisons qui peuvent boucher ses artères. Donc ce patient a eu des stents, c'est des petits ressorts qui ont pu permettre que ses artères reprennent une forme idéale. Ce patient a pu être protégé de ce fait d'un infarctus probable qui aurait pu arriver. En fait, et c'est une des choses sur lesquelles je me raccroche parce que je me rappelle quand ce patient est sorti, il m'a dit mais merci. En fait, sûrement que les médecins m'ont dit que peut-être quelque part, si vous n'aviez pas fait ce test-là, j'aurais pu faire un incident ou un infarctus dans un univers beaucoup plus insécure et que j'étais à milieu d'imaginer que je pouvais faire un infarctus.
Et c'était un jeune patient, c'est ça, qui était venu pour une opération
Bah oui, il venait juste pour un contrôle. pour un contrôle, pour une coloscopie, et venir absolument pas pour qu'on vérifie l'état de son cœur. Mais c'est vrai qu'il se rappelle, je pense, de ce moment où j'ai injecté ce produit et qu'il s'est senti pas bien. Pour moi, c'était une découverte insupportable. C'est que j'étais capable de tuer. Et c'était et que pour moi, j'avais fait ce métier pour soigner et pas pour faire mal. Donc toutes mes valeurs étaient touchées au plus profond. Il n'y avait plus de raison de travailler. J'étais plus valable. Enfin, j'avais plus de raison d'être une infirmière comme je l'avais imaginé, parce que j'étais pas assez fiable. Moi, je suis repartie, mais pas du tout indemne. Je pense que je suis repartie déstructurée, pas rassurée, même avec une hyper vigilance démesurée, des bouffées de chaleur à chaque prochaine injection qui était nécessaire à faire, une incapacité d'en parler avec mes collègues, une peur de mal faire avec une vérification à outrance. Je pense que je pouvais même développer des tocs. Je pense que j'ai pris toutes les responsabilités de la Terre en salle de réveil, de vérification des médicaments, de tout le bloc opératoire. Je crois que j'ai passé toutes les semaines. Après, j'étais la responsable du rangement des médicaments. De ce fait, j'étais le risque, je le voyais partout. Mais en même temps, avec du recul maintenant, je me dis, mais c'était le début de ma conscience du risque. Et comme je prenais toutes ces responsabilités de rangement, le cadre du bloc opératoire a parlé de moi à la directrice générale, qui, je ne sais pas pourquoi, m'a reçue. Et puis elle me dit, mais alors, qu'est-ce qu'on devrait faire, selon vous? Et là, je lui ai fait un plan d'action de toutes les vigilances qu'il fallait mettre en place. Je lui ai exprimé toutes mes vigilances aussi dans les relations humaines, dans la capacité à gérer l'humain dans des situations compliquées. Et en fait, 2 mois après, la quête de bloc décide de partir. Et là, la directrice m'appelle en disant, mais il faut que vous vous occupiez du plateau technique en bas. Et puis la directrice, justement, la quête de bloc m'aimait bien quand même. Elle a dit, mais ce serait bien qu'elle y aille. Et en fait, ça a été tout un petit micmac entre elles qui, sans que je voie quoi que ce soit arriver, m'a permis d'ouvrir la porte sur une nouvelle carrière qui était le management. Et de ce fait, je me suis retrouvée avec toute ma petite gestion des risques à devoir gérer des professionnels dans un service qui faisait le même boulot que moi à l'époque, et je devais devenir leur manager. Donc j'étais plus avec mon carnet de rendez-vous, je me rappelle, j'étais en train de me balader un peu partout, à rentrer partout et à, de ce fait, essayer de sécuriser à peu près tout. Ces 2 plateaux techniques-là, pour moi, les 2 blocs opératoires, maintenant c'était mon nouveau leitmotiv, on me donnait un terrain de jeu pour sécuriser les organisations. Et les humains qui y travaillaient. Bon, après, on pourrait parler de fuite en avant, mais en tout cas, ça m'a permis de faire complètement autre chose et ne plus injecter de médicaments. Ah, mais qu'est-ce que c'était bon! Je pense que là, je pense qu'on m'ouvrait les portes du paradis et je pouvais. C'était une forme de place au soleil pour moi.
Anesthésiste réanimateur, responsable d'un bloc opératoire et gestionnaire des risques liés aux soins. J'ai eu mon diplôme de docteur en 2003. Pendant ma formation, donc avant ces 14 années, en début d'internat, de spécialité, dans le cadre d'une anesthésie en urgence. À l'époque, on préparait nos médicaments nous-mêmes, d'une part, et ces médicaments sont mélangés dans un plateau. Un plateau dit d'anesthésie, où on utilise un certain nombre de médicaments, des médicaments pour faire dormir, les hypnotiques, un médicament pour la douleur à base de morphine, et un médicament à base de curare pour le relâchement musculaire. Et il y a d'autres médicaments sur ce plateau qu'on utilise au cas où on aurait une chute de tension pour contrôler au mieux la tension artérielle. Et au moment de ce qu'on appelle l'induction anesthésique, c'est-à-dire d'endormir le patient, j'ai confondu une seringue à la place d'une autre dans le plateau, Alors que je voulais le relâcher, faire le curare, j'ai fait le médicament pour la tension. Donc je me suis retrouvé avec un patient qui certes dormait, mais n'était pas du tout relâché pour pouvoir l'intuber dans de bonnes conditions. C'était un peu plus difficile que d'habitude. Et surtout, les patients sont scopés, on surveille leur fréquence cardiaque, leur tension artérielle, leur saturation, voilà, il y a des électrodes, etc. Et du coup, la tension était très, très, très élevée. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vraiment en regardant le plateau d'anesthésie, je me suis rendu compte que voilà, j'avais confondu deux seringues. Du coup, j'en ai parlé, donc j'étais interne, donc sous la responsabilité d'un senior. J'en ai parlé à ce médecin senior qui était dans la salle avec moi. Et qui a dit, bon, ben, pour l'instant, on attend et on en rediscutera tout à l'heure. Et en fin d'intervention, une fois que le patient était réveillé, il n'y a eu aucune conséquence clinique, aucune difficulté chirurgicale. Donc le senior, à ce moment-là, m'a dit, bon, écoute, il n'y a pas eu de conséquences, ça me servirait de leçon et on n'en parle pas. Le risque principal, ça aurait été que le patient vomisse, vu que c'était un geste en urgence. Ce qu'on appelle en estomac plein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette phase hein, quand on fait de la chirurgie programmée, on laisse les patients à jeun pendant 6 heures. Et là, dans l'urgence, on ne pouvait pas attendre cette période de jeûne, donc on endort les patients très rapidement. Et le médicament que j'aurais dû utiliser était là justement pour me faciliter l'intubation en séquence rapide. Et du coup, le patient aurait pu vomir et inhaler. Ça aurait pu être catastrophique.
Est-ce que le patient l'a su ?
Non. Non, on lui a jamais dit. On lui a jamais dit à l'époque, hein, ça se disait pas, et c'était vraiment ne disait les choses que s'il y avait des conséquences. C'est vrai que je lis ça un peu comme de griller un feu rouge. Quoi. C'est, vous pouvez griller un feu rouge et avoir vraiment qu'il se passe absolument rien. Mais c'est qu'est-ce que vous en faites ? Et vous dites, bah voilà, ça aurait pu être pire. J'aurais pu accrocher quelqu'un, j'aurais pu me faire accrocher, j'aurais pu tuer quelqu'un. Et plus, en fait, dans l'immédiat, hein, quand vous grillez un feu rouge et vous en rendez compte, ben, oui, il n'y a pas trop de stress. C'est après, qu'est-ce qu'on construit avec ? Et c'est en discutant avec des collègues, on se rend compte que les erreurs sont assez fréquentes, que heureusement, elles sont exceptionnellement avec des conséquences. C'est vraiment, moi, je fais tout à fait le lien avec le feu rouge. Mais ça reste encore difficile de déclarer ces erreurs. Parce que pour un soignant, quand on est bon, on ne commet pas d'erreurs. C'est ce qu'on nous dit, on nous apprend ça pendant toutes nos études, et tout à coup, on se rend compte qu'on va faire des erreurs, donc ça veut dire qu'on n'est pas bon, donc il faut lutter contre ça. Puis il y a la notion, effectivement, de responsabilité. C'est qu'on est aussi responsable de nos actes. Quoi. Donc s'il y a des conséquences derrière, c'est compliqué. Ouais.
Alors, je m'appelle Élise, j'ai 36 ans et demi, je suis infirmière depuis 13 ans maintenant et j'ai choisi ce métier parce que au lycée, je savais déjà que je voulais m'orienter plus ou moins vers une carrière plutôt sociale. J'aime aider les autres, comme vous dirait mon mari, t'aimes sauver le monde. Ben oui, c'est comme ça, je suis comme ça, je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi, voilà. Mon premier poste était fantastique. C'était en hématologie pédiatrique à Paris. C'était à l'hôpital Trousseau. Et donc, je suis arrivée dans ce service immédiatement après avoir passé le diplôme d'État. C'était exceptionnel parce que c'était difficile, mais c'était à la fois joyeux, à la fois triste. Ça reste vraiment ma plus belle expérience de vie professionnelle. Vraiment. Raphaël, il est rentré dans le service parce qu'il était atteint d'une leucémie. Je pense qu'il avait 18 mois environ. Donc rapidement, il est mis dans une chambre. Tout de suite, on débute la chimiothérapie quand le diagnostic est confirmé. Les parents sont vus en entretien. On leur explique tout le processus de soins. Et donc pendant 4 à 6 semaines, Raphaël a été non-stop avec nous. Et ensuite, il est rentré à la maison et il revenait régulièrement pour des séances de chimiothérapie, environ 4-5 jours, et puis il rentrait à la maison, il revenait en hôpital de jour. Donc c'est vrai qu'on l'a eu pendant de nombreux mois, jusqu'à ce traitement d'interleukine de produits de chimiothérapie. qui était vers la fin de son traitement. Ça faisait pas très très longtemps que j'étais en poste dans ce service et on m'a demandé de rester plus longtemps, de faire des heures sup parce que ce jour-là, il manquait du personnel l'après-midi. Bah oui, d'accord, moi j'ai dit oui, j'ai pas d'enfant, ok, ça me pose pas de soucis. Et en tout début d'après-midi, Raphaël devait avoir une injection de chimiothérapie qui se faisait en sous-cutané, donc une petite aiguille qu'on rentrait dans la cuisse ou dans le bras. Donc c'est un produit qui était dans un petit flacon et c'était un produit qu'on n'utilisait pas encore énormément parce qu'il n'était pas encore énormément répandu et moi ça faisait qu'un an que j'étais là donc j'avais pas eu beaucoup d'occasion de l'injecter mais j'en avais fait quand même quelques fois. Et puis je réalise mon calcul de dose dans le poste de soins. Je demande à ma collègue de me contresigner puisque c'était légal, il fallait que la collègue, enfin que quelqu'un vous contresigne votre calcul. Elle m'a contresigné. Et puis j'ai été voir Raphaël avant qu'il fasse la sieste. Il y avait sa maman qui était là, qui le calmait pendant que je lui injectais le produit. Et tout en injectant le produit, je me suis dit c'est quand même très étrange parce que les quelques fois où j'injectais ce produit, j'injectais d'habitude quelques, je sais pas, 0,2 ml ou 0,3 ml, enfin vraiment une petite dose. Et là, je suis arrivée avec une seringue qui était déjà bien remplie. Et quand j'ai injecté le produit, je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal que j'ai aujourd'hui autant de produits à injecter. Mais j'ai continué à injecter. Et en fait, quand je suis sortie de la chambre, je me suis dit que j'avais fait une très grosse erreur. Et donc, j'ai foncé dans le bureau médical. C'était l'heure du déjeuner. Heureusement, le docteur qui avait en charge Raphaël à l'époque était présente. Et je lui ai dit, je viens de faire une énorme erreur. Je pense que je me suis trompée dans la dose de chimiothérapie. Donc elle m'a dit, montre-moi ton calcul tout de suite. Et effectivement, elle m'a dit, ah oui, effectivement, tu viens d'injecter 10 fois la dose. Donc après, toute la machine s'est mise en route. Moi, j'ai tout de suite été voir ma cadre, qui était encore dans son bureau, en lui disant que je venais de faire une énorme erreur. Et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Entre-temps, le médecin a rappelé les parents, qui étaient partis déjeuner. Il les a reconvoqués dans le bureau pour leur dire voilà ce qui vient de se passer, voilà comment on va se comporter avec Raphaël maintenant, parce qu'il y a des gros risques d'effets secondaires gravissimes. On l'a mis donc dans une chambre tout seul, on l'a scopé, c'est-à-dire qu'on lui a mis des électrodes à rattacher à une machine pour surveiller son cœur, parce que c'était ça le plus gros danger en fait, qu'il y ait une défaillance cardiaque, voire un arrêt cardiaque. Donc il a fallu qu'on prévienne la réanimation, qu'il était possible qu'ils reçoivent un petit bébé. Et moi, du coup, j'ai demandé aux parents de Raphaël s'ils acceptaient que je m'occupe de lui toute l'après-midi. Voilà, parce que j'étais responsable, parce que je me suis excusée, j'ai dit « Est-ce que vous voulez bien que je le surveille toute l'après-midi ?» Et ils ont accepté. Ils montraient aucun signe de complication. Donc, je pense que c'est aussi ce qui a dû rassurer les parents. C'est que, voilà, l'après-midi s'est très bien passé. Pouls, tension, température, voilà, toute l'après-midi, toute la nuit, se sont très bien passés. Je pense que l'adrénaline m'a fait tenir. Donc j'étais vraiment à 100%, j'étais omniprésente, hyper concentrée. Et je me suis effondrée le soir en rentrant, en sortant de l'hôpital. Mais je pleurais. Je me suis immédiatement dit, j'ai provoqué cette erreur. On commet quelque chose... une faute, on va en prison. Enfin, voilà. Pour moi, on est jugé. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est ce que je me suis dit en sortant, quoi. J'ai pas dormi de la nuit. C'était une amie à moi, à l'époque, qui travaillait dans le service de nuit, qui a pris mon relais, et donc je l'appelais toutes les heures. Comment il va? Il va bien, il a passé la nuit. Super. Enfin, voilà, c'était... ouais. Donc, je suis retournée dans le service et en fait, je devais de nouveau être au même étage que Raphaël. Et je suis arrivée dans le poste de soins et je leur ai dit, je ne pense pas que je vais pouvoir travailler aujourd'hui à cet étage. Donc, on a appelé dans les autres étages. Est-ce que vous voulez bien qu'on échange? Oui, bien sûr. Et en fait, ça tombait bien parce que la maman de Raphaël avait émis le fait qu'elle ne voulait plus que je m'occupe de son fils le lendemain. Elle avait perdu confiance et voilà, ce qui était normal. Et moi, de toute manière, j'étais honteuse. J'arrivais pas à recroiser le regard de cette maman et donc j'ai fui. Enfin, c'était C'était pas possible pour moi. Je m'en sentais pas capable. Et puis voilà, Raphaël a été dans un autre hôpital, donc en fait la question s'est plus posée après. J'ai pu revu Raphaël et voilà. Mais en tout cas, je me suis plus occupée de lui après cet après-midi-là. Alors j'ai rapidement refait des calculs, ça m'a pas arrêtée, ça m'a pas... Mais par contre, j'ai fait différemment, c'est-à-dire que je m'isolais dans une pièce à part, hein. Je demandais à ma collègue de bien me contresigner, je vérifiais qu'elle recalculait, et puis voilà, j'ai continué à refaire des injections de chimiothérapie, mais parce que du coup, voilà, j'étais très 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 vigilante après, de l'ultra-vigilance. Et par contre, ce que j'ai su après, bien des années plus tard, quand j'étais partie, en fait, et ça m'a vraiment permis d'avancer aussi dans un certain sens, c'est-à-dire que par la suite, ils ont modifié la composition des flacons. Et donc, les flacons ont été vraiment reconditionnés au point de vue national. Mmh. Voilà. Et donc ça, je suis très heureuse que mon erreur ait entraîné ce changement de flacons pour faciliter la tâche de mes collègues infirmières. Enfin, voilà. On n'a pas un service après-vente comme Darty. Enfin, c'est-à-dire qu'on a des patients, des êtres humains. Raphaël, il a un frère, il a des parents. Enfin, je veux dire, voilà. Vous ne pouvez pas dire, oh bah mince, on a fait une erreur, j'ai fait une erreur, bah, c'est pas bien grave, on va le réparer et puis voilà, ça ira ou ça n'ira pas. On va le changer dans ces cas-là. Enfin là, non, c'est pas possible. C'est un être humain, il a une famille. C'est difficile dans ces cas-là lorsqu'on commet une erreur. Et donc, je garderai à vie cet après-midi-là mon erreur que j'ai faite. Je me revois injectée. Enfin, c'est gravé dans ma mémoire.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt.
C'était Erreur médicale, un reportage de Karine Lelouette, réalisé par Philippe Baudouin avec un coup de main d'Émilie Valla. Merci à Élise, Françoise, Dominique Davous, Baptiste Beaulieu, Thomas Declerc et Marina Lavigne. Je précise qu'au bout du compte, le jeune Raphaël n'a pas eu de séquelles de l'erreur commise par la soignante que vous avez entendue. Cette émission a été diffusée pour la première fois en janvier 2018. L'attaché de production, c'est Jeanne Copet et notre stagiaire, c'est Justine Calais.